Alors, pour une deuxième fois cette semaine, je vais me permettre de prendre quelques minutes encore pour parler du nouveau recueil de cantiques. Ce sera de l'enseignement en soi-même. Comme vous avez peut-être vu, ils sont rendus et en voici un. Et d'abord, c'est un recueil qui est conçu spécifiquement pour le repas du Seigneur. Il y a amplement des recueils de cantiques pour d'autres réunions, mais pour le repas du Seigneur, autant que je sache, c'est la première fois qu'il y ait un recueil qui soit même proche d'avoir autant de richesses de sélection qu'on a dans le monde de langue anglaise. Et je me disais, ceux de langue française devraient avoir la même richesse de cantique. Et alors, j'ai apporté une cinquantaine pour l'Assemblée, mais en tout cas, moi, j'aime aussi avoir mon recueil de cantiques personnel. Je trouve très utile le samedi soir de lire des cantiques pour ça commence à préparer mon esprit pour adorer le Seigneur le lendemain. Et je recommande fortement que tous et chacun lise un article qu'il y a au début du livre qui s'appelle Suggestion pour l'emploi de ce recueil, qui donne des instructions sur le déroulement du repas du Seigneur et qui explique comment ce livre est supposé de faciliter cela, de servir de guide, surtout étant donné que les cantiques sont arrangés dans l'ordre pour que les cantiques qu'on sera porté à chanter au début sont vers le début du livre et ainsi de suite. Et alors, je ne veux pas que ce soit un joug et qu'on se sente obligé toujours d'aller du début vers la fin, mais ça sert quand même comme guide parce que c'est vrai que le Saint-Esprit dirige le repas du Seigneur, mais si c'est vraiment le Saint-Esprit qui dirige, il y aura de l'ordre. Et ça nous aidera à voir s'il y a de l'ordre comme il y en a quand le Saint-Esprit dirige. Et surtout, j'ai mis une page de couleur entre les cantiques 112 et 113 pour séparer entre les cantiques qui sont probablement convenables à chanter avant de prendre les emblèmes et ceux qui sont convenables pour chanter après. Parce qu'au repas du Seigneur, ce n'est pas l'occasion de parler de n'importe quoi. Et avant de prendre les emblèmes, on peut avoir quelques réflexions sur le rassemblement au nom du Seigneur Jésus et des louanges d'ordre général. Et alors, on veut parler de la personne et l'œuvre de Christ. Et quand on arrive près du moment pour prendre les emblèmes, logiquement, nos méditations ne devraient-ils pas être sur la croix? Et puis, après avoir pris les emblèmes, même alors, c'est mon opinion en tout cas que ce n'est pas l'occasion de parler de n'importe quoi, mais après les emblèmes, n'est-ce pas plutôt une occasion convenable pour louer et adorer Christ à cause de sa résurrection? Et de faire des réflexions sur le ciel et sur son retour, et aussi d'exprimer notre réponse à sa mort pour nous, qui est d'abandonner le monde et de sortir, aller vers lui hors du camp, portant son opprobre. Et alors, après la page de couleur, j'ai mis des cantiques qui sont sur ces sujets-là, et beaucoup de cantiques sur le retour du Seigneur et sur le ciel. On nous dit même que les premiers chrétiens terminaient toujours le repas du Seigneur en disant « La semaine prochaine, Dieu voulant, nous célébrerons la mort du Seigneur au ciel » parce que leurs yeux étaient tellement sur le retour de Christ. Et même ils le terminaient en disant « Maranatha » qui veut dire « Le Seigneur revient ». Alors, je recommande qu'on cherche à prendre connaissance de ces cantiques. Ceci est la dernière fois que je vous vois avant mon voyage en Arkansas, mais quand je reviens, c'est alors que j'espère avoir les cassettes de tous les cantiques là-dedans qui ne sont pas dans le chant de victoire. Et alors vous pourriez avoir des cassettes pour aider à apprendre les nouveaux cantiques. Alors je dis ceci parce que je ressens que c'est une instruction en soi-même et j'avais au cœur que ce livre serve à enrichir notre adoration et j'espère aussi que comme bénéfice marginal, nous rendre compte davantage de ce que notre salut a coûté à Christ, nous serons stimulés à nous dévouer plus ardemment à lui. Ça, c'est comme un bénéfice marginal de ce livre. AOC en vue du fait que nous serions des nouveaux cantiques à apprendre, alors j'avais à cœur de faire deux méditations sur l'expression un cantique nouveau dans les Saintes Écritures. Il y a deux semaines, nous avons parlé des six références dans les psaumes où cette expression se trouve, un cantique nouveau. J'ai dit qu'il y avait six références dans les psaumes et trois dans des livres prophétiques où on trouve cette expression. Et quand on dit dans la Bible « Chanter l'Éternel un cantique nouveau », l'idée dans le fond semble être que nos cœurs débordent tellement de louanges et de reconnaissance que nous ne trouvons plus les mots, que les moyens qu'on a de l'exprimer sont insuffisants et en conséquence, c'est comme si on disait « Invente-moi une façon plus adéquate, plus suffisante d'exprimer ce que j'ai dans le cœur ». Les références dans les psaumes parlaient de nos bénédictions terrestres que nous avons, parce que les psaumes étaient les cantiques du peuple terrestre de Dieu, les Juifs dans l'Ancien Testament. Et malgré que nos bénédictions majeures dans notre dispensation sont les bénédictions célestes, dans les lieux célestes en Christ, néanmoins, qui nierait que le Seigneur nous a bénis abondamment même sur la terre? Et alors, pour cela, nous avons médité sur le fait que nous devrions avoir des cœurs qui débordent d'un désir de célébrer le Seigneur, tout simplement à cause des bénédictions terrestres dont nous jouissons déjà. Mais ce soir, nous voulons méditer sur les références employant cette expression qui se trouve dans le livre prophétique et qui nous parle de notre vocation céleste, qui est une autre raison de faire déborder nos cœurs de louanges, de reconnaissance au Seigneur et qui nous fera dire « J'aimerais un cantique nouveau pour exprimer plus amplement ce que j'ai dans le cœur. » Donc nous allons regarder les trois références dans les livres prophétiques et la première c'est Ésaïe 42, verset 10. Même si Ésaïe est dans l'Ancien Testament, il y a des passages dans Ésaïe parlant du règne millénaire de Christ qui est encore à venir. Et alors en parlant de ce qui est encore futur, ces références parlent de notre vocation céleste et comment nous sommes appelés à célébrer le Seigneur. Ésaïe 42, verset 10, nous lisons « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. » Alors, c'est une expression d'un désir de chanter un cantique nouveau à l'Éternel et c'est évident qu'il s'agit de louanges à Christ puisque le chapitre commence en disant « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Et qui d'autre est-ce que cela pourrait être que le Seigneur Jésus? En qui d'autre est-ce que Dieu pouvait dire « En lui j'ai mis tout mon plaisir. » Donc, nous concluons que c'est un passage messianique, mais qui parle surtout du règne millénaire de Christ. Et cette réflexion nous dit que Christ est digne de nos louanges, de nos cantiques nouveaux, tout simplement parce qu'il est Dieu. Après tout, il est convenable que le Créateur soit loué par la créature. Et le Seigneur Jésus était le Créateur actif d'entre la Trinité, parce que c'est la parole incarnée, par la parole incarnée que toutes choses ont été créées. Ou, selon l'Épître aux Hébreux, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Donc, malgré que toute la Trinité avait une part dans la création, c'était Dieu le Fils qui était le Créateur central. Et puisque Christ est Dieu, et le Créateur, nous sommes ces créatures, cela en soi-même est une raison pour laquelle nous devrions le louer et déborder de chant pour lui. Et ce passage célèbre le la faque quand Christ va revenir pour régner enfin, il va être reconnu universellement, parce que ça va être des aux extrémités de la terre, selon le verset 10. Christ est déjà roi et n'a jamais cessé de l'être, mais jusque ici et jusque son règne millénaire, il n'est pas reconnu par la majorité de l'humanité comme roi. Même quand il était le roi en Israël, la plupart des Juifs ne le reconnaissaient pas. C'est pour cela que nous lisons dans au moins trois fois dans le livre des Juges que dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et pourtant, quand on arrive dans 1 Samuel, on lit « L'Éternel Dieu était votre roi ». Mais ce n'est pas une contradiction. C'est simplement pour dire que Dieu était le roi de son peuple, mais il n'était pas reconnu par la majorité. Et c'est bien comme ça aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais quand Christ va revenir pour régner, il va être enfin reconnu. Est-ce que ce fait-là nous réjouit? Alors, nos cœurs devraient déborder et nous devrions avoir ce désir à nous qui nous ferait dire « Donnez-moi une façon plaisante d'exprimer ce que j'ai dans le cœur, parce que mes moyens présents ne sont pas suffisants. J'aimerais des cantiques nouveaux. » Dieu va aussi démontrer qu'il est suprême, parce qu'il a dit que ceux qui voyagent, qui voguent sur la mer sont invités à le célébrer. Dans l'Antiquité, la mer était toujours vue comme quelque chose de redoutable, parce que les voyages sur la mer avec les bateaux dans ce temps-là étaient particulièrement dangereux. Et on voyait la mer comme étant quelque chose de mystérieux, de majestueux, mais de redoutable. Est-ce en partie pour cela que la voix de Christ était décrite comme étant le bruit de grands eaux? Souvent, quand je lis ce verset, je m'arrête là-dessus et je pense bien quel son ça a dû être. Un son qui parle de majesté, mais avec une certaine douceur aussi, parlant du caractère de Christ. Alors, quand Christ va être reconnu universellement comme roi, il va être redouté et exalté comme il en est digne par tout simplement le fait qu'il est Dieu. Et ce sera un cantique tel que les païens et les inconvertis n'ont jamais entendu, puisque même les villages occupés par Kedar vont élever la voix et vont le trouver nouveau. Kedar, c'est dans la région qui est Arabie aujourd'hui, alors une région qui est païenne. Mais ceux qui vont chanter ce cantique nouveau vont être ceux qui ont de l'expérience personnelle avec Christ. Les habitants des rochers tressaillent d'allégresse et que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Oui, ceux qui ont expérimenté le secours de l'Éternel et sa réalité, justement, Christ va être célébré éternellement par ceux qui ont été témoins de sa réalité dans leur vie. Et il semble que les païens qui entendent ce cantique nouveau vont y répondre favorablement d'après le verset 12, qui dit qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges, c'est-à-dire les autres pays. Est-ce que ça nous réjouit qu'enfin Christ va être reconnu dans tout l'univers comme roi et que même les païens vont entendre un cantique comme ils n'ont jamais entendu et qui vont y répondre favorablement, même si ça nous réjouit que notre Sauveur va un jour être reconnu universellement comme roi, alors nos cœurs devraient déborder avec le désir de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais tournons à une deuxième référence dans les livres prophétiques. Les deux autres sont dans l'Apocalypse. Tournons au chapitre 5, où nous lisons que Christ est digne aussi à cause de son plan de rédemption. Apocalypse 5, vous connaissez probablement l'histoire où un livre scellé de sept sceaux a été présenté et personne n'a été trouvé dans les cieux ou sur la terre qui soit digne d'ouvrir ce livre et de lâcher les jugements de ces sceaux sur la terre. Et Jean Dicula pluri bocu, perskine of a person that trove din commotion, while there o verse cap. Asia pluri bocu, de suca person, ne fut trove din dovir la leave, ni de la lire, ni de la regarde. Elandi vieillar me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis, on va sauter jusqu'au verset 9, après que Christ a été présenté comme digne d'ouvrir le livre. Verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Alors, la dignité de Christ d'ouvrir ses sceaux n'est pas due tout simplement au fait qu'il est sans péché. Parce qu'il y avait des anges au ciel, et pourtant aucun d'eux n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. C'est pas tout simplement la pureté de Christ, mais c'est parce qu'il a pourvu la rédemption, et alors on peut dire que Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, pour voir un remède pour le péché. Et alors certainement il est digne de déchaîner ses jugements sur le péché, puisqu'il a tout fait pour nous en délivrer et pour remédier au péché. Christ a tout fait et il a une dignité particulière en conséquence. Certainement, Christ est digne d'être loué tout simplement à cause de sa perfection, de sa pureté de caractère. Mais il a une dignité particulière parce qu'il a tout fait pour remédier au péché, pour délivrer des pécheurs. Est-ce que ça nous réjouit? Jean semble avoir beaucoup de peine en voyant que personne n'était trouvé digne d'ouvrir ce livre, parce qu'il savait qu'il fallait bien que la justice soit rendue et que ses jugements étaient nécessaires pour le rendre. Et alors il dit qu'il a pleuré beaucoup parce que personne n'était trouvé digne. Alors, si Jean a pleuré tant que personne n'avait été trouvé qu'il soit digne, n'est-ce pas logique de dire que puisque Christ en est digne, donc quelqu'un qui est digne en a été trouvé, nous devrions chanter. Le contraire de pleurer. Et c'est pour cela qu'on a chanté un cantique nouveau. Oui, on se réjouit parce que Christ a été trouvé digne de lâcher ses jugements sur la terre afin qu'il démontre sa justice. Dans le moment, nous sommes dans le temps de la grâce et de la patience de Dieu. Même sa parole dit que la patience de Dieu est notre salut. Dans le temps présent aussi, il nous a défendu de nous avenger, parce que ce n'est pas le temps pour la vengeance de l'Éternel encore, c'est le temps pour la grâce, et le temps pour aimer tous les pécheurs et de vouloir qu'ils se tournent, qu'ils se repentent et se tournent vers Christ. Mais ça ne va pas toujours être de même. Le temps de la grâce va se terminer et nous croyons que ça va être bientôt. Et le jour de vengeance va venir. Vous souvenez-vous, il y a un passage dans Ésaïe parlant du Messie qui dit qu'il va annoncer l'année de grâce de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu. Et au début de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a lu ce passage dans la synagogue, mais il n'a pas tout lu. Il a arrêté sa lecture après pour annoncer l'année de grâce de l'Éternel. Et il n'a pas lu et le jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que ça c'est encore à venir. Pour le moment, alors, c'est le temps de la grâce. Mais, si ce temps présent de grâce est de tout ce qu'il y avait dans le plan de Dieu, il y aura de l'injustice. Parce que qu'est-ce qui arriverait avec toutes les injustices qui commettent sur la terre maintenant? Et le monde nous demande souvent, comment pouvez-vous dire qu'il y a un Dieu qui est parfait et juste en voyant toutes les atrocités sur la terre? Bien, notre réponse c'est, il n'a pas fini. Son jugement est encore à venir. Dans l'éternité, Dieu va tout rectifier. Mais dans le moment, sa patience laisse le temps pour le salut. Le jour de grâce va achever. Et est-ce que ça nous réjouit de savoir qu'en fin de compte, la justice va être rendue? Dans le chapitre 6, nous voyons les martyrs en train de crier à l'Éternel jusqu'à ce qu'on tarde tu à avenger notre mort. Bien, est-ce que ça a l'air qu'ils ne sont pas très gracieux? Pas du tout. Tout simplement qu'ils demandent que Dieu fasse justice. Alors, nous sommes bien d'accord que nous méritons tous l'enfer, c'est vrai. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous en a sauvés. Mais, puisque la justice de Christ nous a sauvés parce qu'il s'est donné comme notre substitut, alors grâce à la croix, il nous voit comme étant justes, et pour cela, ce sera une injustice de nous faire mal. Non pas parce que nous ne méritions pas l'enfer, mais parce que Christ a payé notre châtiment, et ce sera de l'injustice de le payer une deuxième fois. Donc, il faut que le jugement arrive pour être juste même vis-à-vis des saints, des sauvés, puisque notre châtiment a été payé. Et ça nous réjouit de savoir que la justice parfaite va être accomplie. Alors, si ça nous réjouit, ça aussi devrait faire déborder nos cœurs avec ce désir d'un cantique nouveau pour célébrer notre Seigneur. Et nous regarderons brièvement la troisième référence dans le livre prophétique employant cette expression un cantique nouveau, c'est au chapitre 14 et verset 3. Ici, il est question des 144 000. Et je ne vais pas entrer dans une discussion détaillée de qui ils sont au juste. Il semble que ce sont des Juifs. Mais lisons chapitre 14 et verset 3. Nous lisons, « Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Alors, cette référence nous dit que Christ est digne de recevoir nos louanges parce qu'il garde son peuple. Alors, il a triomphé du péché non seulement en étant pur lui-même, non seulement en nous rachetant de la peine du péché, mais en nous gardant et en nous donnant la victoire sur le péché. Et il a dit que ces 144 000 sont comme des vierges, donc pures, parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Mais c'est bien clair que ceci n'est pas un découragement du mariage, parce qu'il n'y a aucune référence dans la Bible qui indique que le mariage souille. Mais ils sont vierges parce qu'ils sont un portrait de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ doit se conserver pure en attendant les noces de l'agneau. Et alors, avoir des relations quand leurs noces ne sont pas encore arrivées, ça les aurait souillées. Donc, c'est là l'idée. L'Église est encore une vierge spirituelle, parce que les noces de l'agneau ne sont pas encore arrivées. Mais Christ garde son peuple pur, et il est digne d'être loué non seulement à cause de sa perfection, non seulement à cause de nous en racheté, mais aussi à cause du fait qu'il nous garde pur jusqu'à la fin. Comme dit les derniers versets de Jude, il est capable de nous préserver de toute chute et de nous garder purs et nous présenter sans tache devant la présence de sa gloire. Ce cantique aussi peut être chanté seulement par ceux qui ont connu l'expérience d'être dérachetés, parce que les seuls qui peuvent apprendre le cantique sont les rachetés d'entre les hommes, ceux qui suivent l'agneau parce qu'il les guide. Est-ce que ça nous réjouit alors de savoir d'abord que Christ va enfin être reconnu pour qui il est, comme Dieu? Est-ce que ça nous réjouit de savoir qu'il va être loué éternellement à cause de son plan de rédemption? Eskasanu Reishui, de voir qu'il est capable et qu'il garde son propre pur pour lui, comme une vierge pure jusqu'au noce de l'agneau. Si ces faits, qui font partie de notre vocation céleste, nous réjouissent, ça devrait faire déborder nos cœurs, pour que nos cœurs s'écrient, donnez-moi une meilleure façon, une façon plus ample, plus suffisante d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Et bien sûr, cette façon ne peut pas toujours être littéralement en ayant des cantiques nouveaux. C'est plutôt une expression de sentiment. Mais, dans le moment, nous avons l'occasion d'apprendre littéralement des cantiques nouveaux. Alors, profitons-en certainement, n'est-ce pas, pour rendre au Seigneur davantage ce qui devrait être dans nos cœurs en nous rendant compte de notre vocation céleste. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous te rendons grâce du fait que tu nous as appelés à ta vérité, une foi qui fait chanter. Nous observons que les faux espoirs, les religions inventées par l'homme, ne chantent pas, mais donnent plutôt des raisons d'être tristes, alors que la vérité nous fait chanter. Et tu mets des cantiques nouveaux dans nos bouches quand nous nous rendons compte de nos bénédictions déjà sur la terre et aussi des merveilles de notre vocation céleste. Et nous te prions alors que tu nous stimules à chercher toujours des manières plus suffisantes d'exprimer nos louanges et les reconnaissances dont nos cœurs devraient déborder. Nous te rendons grâce alors du fait que tu es tout suffisant pour nous, même pour inspirer nos cultes qui ont besoin que ton esprit les inspire et les guide. Autrement, nous ne saurions pas nous exprimer devant toi. Mais ton esprit prend nos faibles efforts et en fait un culte acceptable à toi. Et nous te prions alors que, maintenant que tu nous bénis avec littéralement des cantiques nouveaux, que ça serve à nous attacher plus fortement à notre précieux sauveur et faire déborder nos cœurs avec une adoration plus ample pour lui en attendant le grand jour quand nous le louerons comme nous voudrions, parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. En son nom merveilleux, nous te prions. Amen.
Par le Seigneur Jésus. Et avant de faire la lecture des Saintes Écritures, j'aimerais vous dire aussi que mon but ce soir n'est pas de mettre en relief les péchés des hommes et des femmes dont nous allons faire la lecture ce soir, mais plutôt prendre un exemple, tirer une leçon de ces manquements que ces personnes ont eus et pour en faire une application dans chacune de nos vies. Et si la parole de Dieu, le Seigneur a cru bon de mentionner ces choses, c'est justement pour nous enseigner à nous aujourd'hui qui sommes si enclins au péché. Et je le dis encore une fois, je n'ai pas aucune leçon à donner à ces gens-là du temps passé parce que s'il était là pour voir ma vie à moi, il y aurait beaucoup de choses à me reprocher. Et si je fais cette lecture, comme j'ai dit tantôt, c'est uniquement pour une leçon pour chacun de nous, pour nous aider à marcher dans les voies du Seigneur Jésus. Et c'est en lisant les paroles des Saintes Écritures que vous allez comprendre le thème de ce soir, plutôt se laisser faire par le Seigneur Jésus. Nous allons tourner dans le livre de la Genèse au chapitre 15 à partir du verset 1er. 5 versets pour commencer. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? » Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » La promesse que l'Éternel avait faite à Abraham et à Sarah, son épouse, qui était fort avancée en âge, et l'Éternel leur avait fait la promesse qu'ils auraient une postérité nombreuse. Mais au verset 16, au chapitre 16, pardon, au verset 1er du chapitre 16, nous lisons qu'Abraham et sa femme ont manqué de patience, peut-être manqué de foi aussi. Et ils avaient peut-être aussi de la difficulté à comprendre ce que Dieu leur avait dit, leur avait promis. Verset 1 du chapitre 16, nous disons, « Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Et alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers elle, elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Vous voyez déjà les premières conséquences d'une décision sans avoir consulté l'Éternel. Et par la suite, il y a la naissance d'Ismaël qui arrive au chapitre 21, nous allons voir la réponse de l'Éternel. Chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu a fait de moi un objet de risée. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Puis au verset 8, nous lisons, « L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sa femme, Sarah, vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne lui avait enfanté, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et vous connaissez aussi l'histoire. C'est la petite Agar qui est partie. Et au verset 16, nous lisons, Abraham, évidemment, à partir du verset 14, Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla se s'asseoir vis-à-vis une portée d'arc. Car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle vint s'asseoir donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'Éternel et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le désert où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et si on avait lu la suite du chapitre 16 tantôt, on aurait vu que cet enfant, Ismaël, était le premier ennemi du peuple de Dieu d'Israël. Premier ennemi du peuple de Dieu. C'est là que la guerre entre Juifs et Arabes a commencé. Et la carte que vous voyez ici, Ismaël, après être parti, il est allé habiter cette contrée ici, qui est vis-à-vis. Et ça vous rappelle-tu quelque chose? La guerre du Koweït, il y a quelques années, l'année dernière, il y a deux ans. Le Koweït est ici, la Jordanie est là, vous avez la mer Rouge ici, le golfe Persique est ici, et puis c'est à quelque part ici que ça s'est passé, puis Ismaël est venu habiter. Si vous regardez dans vos bibles, dans les cartes à la fin de votre livre, vous allez voir cette partie ici, c'est là qu'est allé habiter Ismaël. Premier ennemi du peuple de Dieu, du peuple juif. Si nous allons au chapitre 25, c'est bien sûr que cette chère Sarah ne savait pas quand, essayant d'aider Dieu. Et c'est là la première partie de ma question. Se laisser faire par Dieu au lieu d'essayer d'aider Dieu. C'est un peu, nous y reviendrons au cours de la prochaine demi-heure pour justement essayer de comprendre ce que nous aussi nous avons essayé de faire au cours de nos vies. Genèse 25, verset 19, nous lisons, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implorait l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et vous connaissez probablement tous aussi ce qui est arrivé dans les suites des temps quand les enfants ont grandi. Au chapitre 27, nous lisons, Isaac devenait vieux. Chapitre 27, verset 1er. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, il répondit, me voici. » Isaac dit, « Voici donc, Je suis vieux, je ne reconnais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et prêtez bien attention aux versets qui suivent. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère, apporte-moi du gibier et fais un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je vais te commander, à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. Je ferai pour toi, pour ton père, un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et vous connaissez probablement tous, après avoir lu, toute la combine que Rebecca avait faite afin de pouvoir substituer son fils Jacob aux yeux de son, et au toucher, peut-être pas tellement aux yeux parce qu'il ne voyait plus, mais au toucher et à l'odorat de son cher Isaac. Et vous avez sûrement tous lu cette histoire. Et l'histoire nous rappelle encore. Au verset 30, nous allons continuer un petit bout de lecture. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, « Qui donc? Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Et aussi sera-t-il béni? » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son propre père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Et nous allons sauter au verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Vous voyez là, deuxième ennemi d'Israël, du peuple de Dieu. Pourquoi? Encore une fois, à cause d'un manque. Probablement, ça ne nous est pas dit en tout cas. À cause d'un manque d'avoir consulté l'Éternel. Rebecca avait eu un message que Jacob devait être, devait dominer, devait, qu'Ésaü devait être assujetti à son frère Jacob. Comment l'Éternel allait le faire, il ne l'a pas dit. Mais Rebecca, qui voulait aider Dieu, a mis son propre fils dans une drôle de situation. Elle a soulevé la colère de son propre fils contre l'autre. Et voyez-vous les conséquences de nos inconséquences dans la vie. En voulant aider Dieu, elle a créé un deuxième ennemi au peuple de Dieu. Et Ésaü, encore une fois, il est venu habiter ici, voisin de son frère. Parce qu'ici, c'est l'État d'Israël. Vous avez la pointe du Sinaï qui est là. Et puis, c'est ici l'État. Vous avez ici qui est la Jordanie. Et qui sont séparés tous les deux par le Jourdain qui s'en est là. Et la Jordanie qui est ici. Probablement que Ésaü, qui veut dire Édom, est venu habiter ici, voisin. Et quel est l'état, la tension aujourd'hui, après environ 6000 ans? Les deux voisins sont encore opposés l'un à l'autre, après 6000 ans. Conséquence d'avoir voulu aider Dieu au lieu de se laisser faire par Dieu. Vous savez, c'est très important hein, quand on veut. Comment est-ce que Dieu aurait pu faire? Une chose est certaine, c'est que il n'est pas à court de ressources. Et il aurait sûrement été capable de faire en sorte que sa parole soit accomplie sans créer une guerre entre deux frères, une guerre qui dure depuis 6000 ans. C'est important, vous savez, quand on pense à tout ça. Maintenant, j'aimerais aller dans le Nouveau Testament. C'est un petit peu, vous allez voir, cette fois-ci, c'est pas des simples personnages qui, comme Abraham, Sarah, Isaac et Jacob et Rebecca. Mais nous allons maintenant aller dans l'évangile de Jean. Au chapitre 18. Vous allez voir encore une fois un homme qui a voulu aider Dieu. Jean, chapitre 18, à partir du verset 33. Peut-être qu'en commençant, vous allez avoir des difficultés à comprendre, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se clarifier. Jean 18, verset 33, nous lisons, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, que tu fais? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Toi, donc, tu es donc roi, » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Et vous voyez encore ici un homme qui avait voulu délivrer Jésus. Pilate, qui reconnaissait que le Seigneur Jésus était juste, qui était innocent, qui n'était innocent de tous les crimes qu'on l'accusait, avait essayé à ce moment-là de délivrer Jésus. Et en essayant de faire flageller Jésus pour que les Juifs de son temps le prennent en pitié, après avoir vu son corps labouré par les foies. Et j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Et vous savez que dans le dictionnaire biblique, on nous dit que le nombre de coups était limité par l'épuisement du bourreau. Imaginez, le nombre, dans la loi juive disait qu'on ne devait pas donner plus de 39 coups de fouet sur le condamné, parce que le 40e coup risquait de lui donner la mort. Et comme il n'était pas condamné à mort, on lui donnait seulement 39 coups pour éviter justement cette chose. Mais dans la loi romaine, le nombre de coups était limité uniquement par l'épuisement du soldat. Et la Bible nous dit que les soldats qui l'ont fouetté, et c'est au pluriel, donc ils étaient au moins deux. On peut imaginer le nombre de coups que le Seigneur a eu. Et devait être atroce. Ça nous dit aussi que dans les fouets, il y avait des fouets avec des lanières de cuir, avec les bouts qui permettaient de fendre la peau à chaque fois qu'on frappait. Il y avait aussi des masses de plomb qui étaient mis au bout. Et le Seigneur Jésus a subi toutes ces atrocités. Pilate, en voulant aider le Seigneur Jésus, a augmenté la douleur, les tourments, a augmenté l'atrocité qui a été faite au Seigneur Jésus. Peut-être me direz-vous que la Bible nous dit que le Seigneur devait subir ses châtiments. Oui, la Bible nous dit ceci. Mais la Bible nous prédit aussi que le Seigneur devait subir ce châtiment, parce que l'Éternel connaissait le cœur des hommes. Et, frères et sœurs, je ne sais pas si ici ou ce soir, vous avez tous accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mais laissez-moi vous dire que sur cette croix, ce jour-là, deux grands infinis ont été amenés en face de l'humanité. L'infinie bonté de l'amour de Dieu pour nous a été manifestée à la croix. L'infinie grandeur de l'amour de Dieu a été manifestée à la croix. Et en même temps, l'infinie méchanceté du cœur de l'homme a été manifestée à la croix. Deux grands infinis ont été manifestés en même temps. Les deux extrémités ont été manifestées ce jour-là. L'amour de Dieu pour sa créature et la méchanceté de sa créature envers son Créateur, envers son Sauveur. C'est ça que nous avons fait ce jour-là. Si nous avions été à leur place, est-ce qu'on aurait été parmi le petit groupe qui entourait la Vierge Marie avec quelques femmes qui pleuraient sur le Seigneur Jésus, ou si on aurait été du nombre de ceux qui criaient « Crucifie-le ». On va revenir au verset 1 du chapitre 19 de l'Évangile de Jean. « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Voici l'homme, celui que vous avez emmené devant moi et en qui je ne trouve aucun crime. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie ». Pilate, en voulant aider Jésus, a augmenté les souffrances, les tourments du Seigneur Jésus. Les Juifs n'avaient pas demandé de flageller le Seigneur Jésus. Les Juifs avaient
alors pour induire une fois cette semaine, je vais me permettre de prendre quelques minutes encore pour parler du nouveau recueil de cantiques. Ce sera de l'enseignement en soi-même. Comme vous avez peut-être vu, ils sont rendus, et en voici un. Et d'abord, c'est un recueil qui est conçu spécifiquement pour le repas du Seigneur. Il y a amplement des recueils de cantiques pour d'autres réunions, mais pour le repas du Seigneur, autant que je sache, c'est la première fois qu'il y ait un recueil qui soit même proche d'avoir autant de richesses de sélection qu'on a dans le monde de langue anglaise. Et je me disais, ceux de langue française devraient avoir la même richesse de cantiques. Et alors, j'ai apporté une cinquantaine pour l'Assemblée, mais en tout cas, moi, j'aime aussi avoir mon recueil de cantiques personnel. Je trouve très utile le samedi soir de lire des cantiques pour que ça commence à préparer mon esprit pour adorer le Seigneur le lendemain. Et je recommande fortement que tous et chacun lise un article qu'il y a au début du livre qui s'appelle « Suggestions pour l'emploi de ce recueil » qui donne des instructions sur le déroulement du repas du Seigneur et qui explique comment ce livre est supposé de faciliter cela, de servir de guide, surtout étant donné que les cantiques sont arrangés dans l'ordre pour que les cantiques qu'on sera porté à chanter au début sont vers le début du livre et ainsi de suite. Et alors, je ne veux pas que ce soit un joug et qu'on se sente obligé toujours d'aller du début vers la fin, mais ça sert quand même comme guide parce que c'est vrai que le Saint-Esprit dirige le repas du Seigneur, mais si c'est vraiment le Saint-Esprit qui dirige, il y aura de l'ordre. Et ça nous aidera à voir s'il y a de l'ordre comme il y en a quand le Saint-Esprit dirige. Et surtout, j'ai mis une page de couleur entre les cantiques 112 et 113 pour séparer entre les cantiques qui sont probablement convenables à chanter avant de prendre les emblèmes et ceux qui sont convenables à chanter après. Parce qu'au repas du Seigneur, c'est pas l'occasion de parler de n'importe quoi. Et avant de prendre les emblèmes, on peut avoir quelques réflexions sur le rassemblement au nom du Seigneur Jésus et des louanges d'ordre général. Et alors, on veut parler de la personne et l'œuvre de Christ. Et quand on arrive près du moment pour prendre les emblèmes, logiquement, nos méditations ne devraient-ils pas être sur la croix? Et puis, après avoir pris les emblèmes, même alors, c'est mon opinion en tout cas que ce n'est pas l'occasion de parler de n'importe quoi, mais après les emblèmes, n'est-ce pas plutôt une occasion convenable pour louer et adorer Christ à cause de sa résurrection et de faire des réflexions sur le ciel et sur son retour, et aussi d'exprimer notre réponse à sa mort pour nous, qui est d'abandonner le monde et de sortir, aller vers lui hors du camp portant son opprobre. Et alors, après la page de Couloirs, j'ai mis des cantiques qui sont sur ces sujets-là, et beaucoup de cantiques sur le retour du Seigneur et sur le ciel. On nous dit même que les premiers chrétiens terminaient toujours le repas du Seigneur en disant « La semaine prochaine, Dieu voulant, nous célébrerons la mort du Seigneur au ciel » parce que leurs yeux étaient tellement sur le retour de Christ. Et même ils le terminaient en disant « Maranatha » qui veut dire « Le Seigneur revient ». Alors, je recommande qu'on cherche à prendre connaissance de ces cantiques. Ceci est la dernière fois que je vous vois avant mon voyage en Arkansas, mais quand je reviens, c'est alors que j'espère avoir les cassettes de tous les cantiques là-dedans qui ne sont pas dans Chant de Victoire. Et alors vous pourriez avoir des cassettes pour aider à apprendre les nouveaux cantiques. Alors je dis ceci parce que je ressens que c'est une instruction en soi-même, et j'avais au cœur que ce livre serve à enrichir notre adoration, et j'espère aussi que comme bénéfice marginal, nous rendre compte davantage de ce que notre salut a coûté à Christ, nous serons stimulés à nous dévouer plus ardemment à lui. Ça se donne comme un bénéfice marginal de ce livre. Et aussi, en vue du fait que nous aurions des nouveaux cantiques à apprendre, alors j'avais à cœur de faire deux méditations sur l'expression un cantique nouveau dans les Saintes Écritures. Il y a deux semaines, nous avons parlé des six références dans les psaumes où cette expression se trouve, un cantique nouveau. J'ai dit qu'il y avait six références dans les psaumes et trois dans des livres prophétiques où on trouve cette expression. Et quand on dit dans la Bible « Chantez l'Éternel un cantique nouveau », l'idée dans le fond semble être que nos cœurs débordent tellement de louanges et de reconnaissance que nous ne trouvons plus les mots, que les moyens qu'on a de l'exprimer sont insuffisants, et en conséquence, c'est comme si on disait « Invente-moi une façon plus adéquate, plus suffisante d'exprimer ce que j'ai dans le cœur ». Les références dans les psaumes parlaient de nos bénédictions terrestres que nous avons, parce que les psaumes étaient les cantiques du peuple terrestre de Dieu, les Juifs dans l'Ancien Testament. Et malgré que nos bénédictions majeures dans notre dispensation sont les bénédictions célestes, dans les lieux célestes en Christ, néanmoins, qui nierait que le Seigneur nous a bénis abondamment même sur la terre? Et alors, pour cela, nous avons médité sur le fait que nous devrions avoir des cœurs qui débordent d'un désir de célébrer le Seigneur, tout simplement à cause des bénédictions terrestres dont nous jouissons déjà. Mais ce soir, nous voulons méditer sur les références employant cette expression qui se trouve dans le livre prophétique et qui nous parle de notre vocation céleste, qui est une autre raison de faire déborder nos cœurs de louanges, de reconnaissance au Seigneur, et qui nous fera dire « J'aimerais un cantique nouveau pour exprimer plus amplement ce que j'ai dans le cœur. » Donc nous allons regarder les trois références dans les livres prophétiques, et la première c'est Ésaïe 42, verset 10. Même si Ésaïe est dans l'Ancien Testament, il y a des passages dans Ésaïe parlant du règne millénaire de Christ qui est encore à venir. Et alors en parlant de ce qui est encore futur, ces références parlent de notre vocation céleste et comment nous sommes appelés à célébrer le Seigneur. Ésaïe 42, verset 10, nous lisons, Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Alors, c'est une expression d'un désir de chanter un cantique nouveau à l'Éternel, et c'est évident qu'il s'agit de louange à Christ, puisque le chapitre commence en disant « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Et qui d'autre est-ce que cela pourrait être que le Seigneur Jésus? En qui d'autre est-ce que Dieu pouvait dire « En lui j'ai mis tout mon plaisir. » Donc, nous concluons que c'est un passage messianique, mais qui parle surtout du règne millénaire de Christ. Et cette réflexion nous dit que Christ est digne de nos louanges, de nos cantiques nouveaux, tout simplement parce qu'il est Dieu. Après tout, il est convenable que le Créateur soit loué par la créature. Et le Seigneur Jésus était le Créateur actif d'entre la Trinité, parce que c'est la parole incarnée, par la parole incarnée que toutes choses ont été créées. Ou, selon l'Épître aux Hébreux, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Donc, malgré que toute la Trinité avait une part dans la création, c'est Dieu le Fils qui est le Créateur central. Et puisque Christ est Dieu, et le Créateur, nous sommes ces créatures, cela en soi-même est une raison pour laquelle nous devrions le louer et déborder de chant pour lui. Et ce passage célèbre le fait que quand Christ va revenir pour régner enfin, il va être reconnu universellement, parce que ça va être aux extrémités de la terre, selon le verset 10. Christ est déjà roi et n'a jamais cessé de l'être. Mais jusqu'ici et jusqu'à son règne millénaire, il n'est pas reconnu par la majorité de l'humanité comme roi. Même quand il était le roi en Israël, la plupart des Juifs ne le reconnaissaient pas. C'est pour cela que nous lisons au moins trois fois dans le livre des Juges que dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et pourtant, quand on arrive dans 1 Samuel, on lit « L'Éternel Dieu était votre roi ». Mais ce n'est pas une contradiction, c'est simplement pour dire que Dieu était le roi de son peuple, mais il n'était pas reconnu par la majorité. Et c'est bien comme ça aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais quand Christ va revenir pour régner, il va être enfin reconnu. Est-ce que ce fait-là nous réjouit? Alors, nos cœurs devraient déborder et nous devrions avoir ce désir à nous qui nous ferait dire « Donnez-moi une façon plus ample d'exprimer ce que j'ai dans le cœur, parce que mes moyens présents ne sont pas suffisants. J'aimerais des cantiques nouveaux. » Dieu va aussi démontrer qu'il est suprême, parce qu'il a dit que ceux qui voyagent, qui voguent sur la mer sont invités à le célébrer. Dans l'Antiquité, la mer était toujours vue comme quelque chose de redoutable, parce que les voyages sur la mer avec les bateaux dans ce temps-là, il est particulièrement dangereux. Et on voyait la mer comme étant quelque chose de mystérieux, de majestueux, mais de redoutable. Est-ce en partie pour cela que la voix de Christ était décrite comme étant le bruit de grands eaux? Souvent, quand je lis ce verset, je m'arrête là-dessus et je pense bien quel son ça a dû être. Un son qui parle de majesté, mais avec une certaine douceur aussi, parlant du caractère de Christ. Alors, quand Christ va être reconnu universellement comme roi, il va être redouté et exalté comme il en est digne par tout simplement le fait qu'il est Dieu. Et ce sera un cantique tel que les païens et les inconvertis n'ont jamais entendu, puisque même les villages occupés par Kédar vont élever la voix et vont le trouver nouveau. qui danse dans la région qui est arabe aujourd'hui, alors une région qui est païenne. Mais ceux qui vont chanter ce cantique nouveau vont être ceux qui ont de l'expérience personnelle avec Christ. Les habitants des rochers tressaillent dans les graisses et que du sommet des montagnes retentissent les cris de joie. Oui, ceux qui ont expérimenté le secours de l'Éternel et sa réalité, justement, Christ va être célébré éternellement par ceux qui ont été des témoins de sa réalité dans leur vie. Et il semble que les païens qui entendent ce cantique nouveau vont y répondre favorablement d'après le verset 12, qui dit qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges, c'est-à-dire les autres pays. Est-ce que ça nous réjouit qu'enfin, Christ va être reconnu dans tout l'univers comme roi et que même les païens vont entendre un cantique comme ils n'ont jamais entendu et qu'ils vont y répondre favorablement, bien si ça nous réjouit que notre Sauveur va un jour être reconnu universellement comme roi, alors nos cœurs devraient déborder avec le désir de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais tournons à une deuxième référence dans les livres prophétiques. Les deux autres sont dans l'Apocalypse. Tournons au chapitre 5, où nous lisons que Christ est digne aussi à cause de son plan de rédemption. Apocalypse 5, vous connaissez probablement l'histoire où un livre scellé de sept sceaux a été présenté et personne n'a été trouvé dans les cieux ou sur la terre qui soit digne d'ouvrir ce livre et de lâcher les jugements de ses sceaux sur la terre. Et Jean dit qu'il a pleuré beaucoup parce qu'il n'y avait personne de trouver digne. Commençons à lire au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. On va sauter jusqu'au verset 9, après que Christ a été présenté comme digne d'ouvrir le livre. Verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Alors, la dignité de Christ d'ouvrir ses sceaux n'est pas due tout simplement au fait qu'il est sans péché, parce qu'il y avait des anges au ciel et pourtant aucun d'eux n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. C'est pas tout simplement la pureté de Christ, mais c'est parce qu'il a pourvu la rédemption. Et alors on peut dire que Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, pour faire un remède pour le péché. Et alors certainement il est digne de déchaîner ses jugements sur le péché, puisqu'il a tout fait pour nous en délivrer et pour remédier au péché. Christ a tout fait et il a une dignité particulière en conséquence. Certainement, Christ est digne d'être loué tout simplement à cause de sa perfection, de sa pureté de caractère. Mais il a une dignité particulière parce qu'il a tout fait pour remédier au péché, pour délivrer des pécheurs. Est-ce que ça nous réjouit? Jean semble avoir beaucoup de peine en voyant que personne n'ait trouvé digne d'ouvrir ce livre, parce qu'il savait qu'il fallait bien que la justice soit rendue et que ses jugements étaient nécessaires pour le rendre. Et alors il dit qu'il a pleuré beaucoup parce que personne n'ait trouvé digne. Alors, si Jean a pleuré tant que personne n'avait été trouvé qu'il soit digne, n'est-ce pas logique de dire que puisque Christ en est digne, donc quelqu'un qui est digne en a été trouvé, nous devrions chanter. Le contraire de pleurer. Et c'est pour cela qu'on a chanté un cantique nouveau. oui, on se réjouit parce que Christ a été trouvé digne de lâcher ses jugements sur la terre afin qu'il démontre sa justice. Dans le moment, nous sommes dans le temps de la grâce et de la patience de Dieu. Même sa parole nous dit que la patience de Dieu est notre salut. Dans le temps présent aussi, il nous a défendu de nous venger, parce que ce n'est pas le temps pour la vengeance de l'Éternel encore, c'est le temps pour la grâce, et le temps pour aimer tous les pécheurs, et de vouloir qu'ils se repentent et se tournent vers Christ. Mais ça ne va pas toujours être de même. Le temps de la grâce va se terminer, et nous croyons que ça va être bientôt. Et le jour de vengeance va venir. Vous souvenez-vous, il y a un passage dans Ésaïe parlant du Messie qui dit qu'il va annoncer l'année de grâce de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu. Et au début de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a lu ce passage dans la synagogue, mais il n'a pas tout lu. Il a arrêté sa lecture après pour annoncer l'année de grâce de l'Éternel. Et il n'a pas lu. Et le jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que ça sera encore à venir. Pour le moment, alors, c'est le temps de la grâce. Mais, si ce temps présent de grâce est de tout ce qu'il y avait dans le plan de Dieu, il y aura de l'injustice. Parce que qu'est-ce qui arriverait avec toutes les injustices qui commettent sur la terre maintenant? Et le monde nous demande souvent, comment pouvez-vous dire qu'il y a un Dieu qui est parfait et juste en voyant toutes les atrocités sur la terre? Bien, notre réponse est, il n'a pas fini. Son jugement est encore à venir. Dans l'éternité, Dieu va tout rectifier. Mais dans le moment, sa patience laisse le temps pour le salut. Le jour de grâce va achever. Et est-ce que ça nous réjouit de savoir qu'en fin de compte, la justice va être rendue? Dans le chapitre 6, nous voyons les martyrs en train de crier à l'Éternel, « Jusqu'à quand tardes-tu à avancer notre mort? » Bien, est-ce que ça a l'air qu'ils ne sont pas très gracieux? Pas du tout. Tout simplement qu'ils demandent que Dieu fasse justice. Alors, nous sommes bien d'accord que nous méritons tous l'enfer, c'est vrai. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous en a sauvés. Mais, puisque la justice de Christ nous a sauvés parce qu'il s'est donné comme notre substitut, alors grâce à la croix, il nous voit comme étant juste, et pour cela, ce sera une injustice de nous faire mal. Non pas parce que nous ne méritions pas l'enfer, mais parce que Christ a payé notre châtiment, et ce sera de l'injustice de le payer une deuxième fois. Donc, il faut que le jugement arrive pour être juste même vis-à-vis des saints, des sauvés, puisque notre châtiment a été payé. Et ça nous réjouit de savoir que la justice parfaite va être accomplie. Alors, si ça nous réjouit, ça aussi devrait faire déborder nos cœurs avec ce désir d'un cantique nouveau pour célébrer notre Seigneur. Et nous regarderons brièvement la troisième référence dans les livres prophétiques employant cette expression en cantique nouveau, c'est au chapitre 14 et verset 3. Ici, il est question des 144 000, et je ne vais pas entrer dans une discussion détaillée de qui ils sont au juste. Il semble que ce sont des Juifs. Mais lisons chapitre 14 et verset 3. Nous lisons, « Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se point trouver de mensonges, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. » Alors, cette référence nous dit que Christ est digne de recevoir nos louanges parce qu'il garde son peuple. Alors, il a triomphé du péché non seulement en étant pur lui-même, non seulement en nous rachetant de la peine du péché, mais en nous gardant et en nous donnant la victoire sur le péché. Et il a dit que ces 144 000 sont comme des vierges, donc pures, parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Mais c'est bien clair que ceci n'est pas un découragement du mariage, parce qu'il n'y a aucune référence dans la Bible qui indique que le mariage souille. Mais ils sont vierges parce qu'ils sont un portrait de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ doit se conserver pure en attendant les noces de l'agneau et alors avoir des relations quand leurs noces ne sont pas encore arrivées, ça les aurait souillées. Donc c'est là l'idée. L'Église est encore une vierge spirituelle parce que les noces de l'agneau ne sont pas encore arrivées. Mais Christ garde son propre pur et il est digne d'être loué non seulement à cause de sa perfection, non seulement à cause de nous en racheté, mais aussi à cause du fait qu'il nous garde pur jusqu'à la fin. Comme dit les derniers versets de Jude, il est capable de nous préserver de toute chute et de nous garder pur et nous présenter sans tache devant la présence de sa gloire. Ce cantique aussi peut être chanté seulement par ceux qui ont connu l'expérience d'être des rachetés. Parce que les seuls qui peuvent apprendre le cantique sont les rachetés d'entre les hommes, ceux qui suivent l'agneau parce qu'il les guide. Est-ce que ça nous réjouit alors de savoir d'abord que Christ va enfin être reconnu pour qui il est, comme Dieu? Est-ce que ça nous réjouit de savoir qu'il va être loué éternellement à cause de son plan de rédemption? Et est-ce que ça nous réjouit de voir qu'il est capable et qu'il garde son propre pur pour lui, comme une vierge pure jusqu'aux noces de l'agneau? Si ces faits, qui font partie de notre vocation céleste, nous réjouissent, ça devrait faire déborder nos cœurs, pour que nos cœurs s'écrient, donnez-moi une meilleure façon, une façon plus ample, plus suffisante d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Et bien sûr, cette façon ne peut pas toujours être littéralement en ayant des cantiques nouveaux. C'est plutôt une expression de sentiment. Mais, dans le moment, nous avons l'occasion d'apprendre littéralement des cantiques nouveaux. Alors, profitons-en certainement, n'est-ce pas, pour rendre au Seigneur davantage ce qui devrait être dans nos cœurs en nous rendant compte de notre vocation céleste. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous te rendons grâce du fait que tu nous as appelés à ta vérité, une foi qui fait chanter. Nous observons que les faux espoirs, les religions inventées par l'homme, ne chantent pas, mais donnent plutôt des raisons d'être tristes, alors que la vérité nous fait chanter. Et tu mets des cantiques nouveaux dans nos bouches quand nous nous rendons compte de nos bénédictions déjà sur la terre et aussi des merveilles de notre vocation céleste. Et nous te prions alors que tu nous stimules à chercher toujours des manières plus suffisantes d'exprimer nos louanges et les reconnaissances dont nos cœurs devraient déborder. Nous te rendons grâce alors du fait que tu es tout suffisant pour nous, même pour inspirer nos cultes qui ont besoin que ton esprit les inspire et les guide. Autrement, nous ne saurions pas nous exprimer devant toi. Mais ton esprit prend nos faibles efforts et en fait un culte acceptable à toi. Et nous te prions alors que maintenant que tu nous bénis avec littéralement des cantiques nouveaux, que ça serve à nous attacher plus fortement à notre précieux Sauveur et faire déborder nos cœurs avec une adoration plus ample pour lui en attendant le grand jour quand nous le louerons comme nous voudrions parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. En son nom merveilleux, nous te prions. Amen.